Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonjour et bonsoir, amis auditeurs, selon l'heure que vous nous suivez. En ce samedi 1er mai 2021, j'ai le grand plaisir de vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Rapprochement Iran-Arabie Saoudite, est-ce possible? Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. À la une de ce journal, les négociations de Vienne sont positives et satisfaisantes malgré les difficultés. Déclaration de Mahmoud Voaezi, directeur du bureau présidentiel. Retour au respect du JCPOA pour Washington, les négociations indirectes Irano-US sont peu efficaces. Et puis le report des élections législatives est contre les intérêts nationaux de la Palestine, a réagi Hamas, qualifiant la décision d'Abbas de coup d'État. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le directeur du cabinet du président de la République islamique d'Iran, Mahmoud Voaezi, a qualifié les négociations de Vienne sur l'accord nucléaire de satisfaisantes et positives, malgré les difficultés et les divergences d'opinion. Les négociations de Vienne traversent des jours fatidiques et malgré l'existence de certaines difficultés, l'atmosphère est positive et si le cours se poursuit ainsi, nous assisterons à des progrès à Vienne, a déclaré vendredi Mahmoud Voaezi. Le gouvernement et l'équipe de négociations iraniennes sont engagés dans des négociations dans le cadre défini par les hauts responsables du pays dans les conditions fixées par le leader de la révolution. Et dans cette voie, nous cherchons dans les négociations à relancer l'accord nucléaire et à lever l'embargo à la lumière de toutes les considérations, lois et cadres spécifiques, a-t-il ajouté. Tout en décrivant l'avenir économique du pays comme prometteur, le responsable a précisé qu'avec la levée des sanctions injustes imposées au peuple iranien, des jours meilleurs attendent l'économie du pays et les moyens de subsistance du peuple, c'est sûr, le gouvernement fait ses efforts sans perdre l'occasion d'atteindre cet objectif. Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jack Sullivan, a déclaré que les pourparlers de Vienne sur la relance de l'accord nucléaire iranien de 2015 se trouvent dans une situation peu claire. Les commentaires de Jack Sullivan interviennent alors que l'Iran et les autres signataires de l'accord devraient tenir une autre série de pourparlers dans la capitale autrichienne. Ces derniers font la navette entre les délégations américaines et iraniennes. Jack Sullivan a déclaré que toutes les parties, y compris l'Iran, ont montré une volonté sérieuse, je cite, de reprendre le chemin vers la relance de l'accord. Cependant, il a déclaré qu'il ne sait toujours pas si le processus aboutirait à un accord. Des responsables de l'Iran, de la Grande-Bretagne, de la Chine, de la France, de l'Allemagne, de la Russie et de l'Union européenne ont déjà tenu trois séries de pourparlers. Téhéran a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'accepterait le résultat des pourparlers qu'une fois que Washington aurait supprimé toutes les sanctions de manière vérifiable. Téhéran a également averti qu'il ne permettra pas que les négociations de la commission mixte à Vienne de se transformer en un outil d'usure contre l'Iran. L'Iran n'oubliera pas ses partenaires de l'ère des sanctions. Nous n'oublierons pas les pays partenaires au cours des sanctions. Notre politique est basée sur ce principe que les investisseurs étrangers produisent leurs marchandises à l'intérieur de l'Iran. Nous devons prêter une attention particulière à l'entrée de la technologie et de la production à l'intérieur et nous ne devons pas être de simples consommateurs, a déclaré le vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé de la diplomatie économique. Dans une interview accordée à l'IRNA, Rasul Mohajer a annoncé la formation du poste spécial du vice-ministre chargé de la diplomatie économique au sein du ministère iranien des Affaires étrangères et a insisté sur le rôle de cette structure dans les relations extérieures de la République islamique d'Iran. Nous sommes confrontés à une guerre économique à part entière. Le gouvernement et toutes les différentes institutions américaines ont cherché et cherchent à fermer toutes les ouvertures économiques de l'Iran. L'usage de l'expression d'une véritable guerre économique n'est pas une exagération. Ces dernières années, toutes nos banques et tous nos navires ont été sanctionnés et les Américains ont tenté d'empêcher tout navire iranien de naviguer, a insisté le diplomate de haut rang iranien. Soulignant la nécessité de se concentrer davantage sur les pays voisins, ce responsable iranien a précisé, je cite, « Nos principaux partenaires économiques sont aujourd'hui des pays comme l'Irak, l'Afghanistan et les Émirats arabes unis. » Faisant référence à la croissance des exportations non pétrolières de l'Iran, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré, je cite, « En raison de la propagation du coronavirus, nous avons été témoins de la récession économique de divers pays à travers le monde. L'économie iranienne n'était pas à l'abri de la récession et en plus des effets de l'épidémie de COVID-19, l'économie iranienne était aux prises avec des sanctions américaines sévères. Malgré ces circonstances, nous avons essayé d'améliorer nos relations et surtout de développer nos liens avec nos voisins et des pays importants comme la Chine, l'Inde et la Russie. L'actualité régionale avec la Palestine, le mouvement de résistance palestinien Hamas, insiste une fois de plus sur la tenue des élections législatives palestiniennes à la date prévue. Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré que le mouvement de la résistance était prêt à coopérer avec toutes les factions politiques palestiniennes en faveur du bon déroulement du scrutin, dénonçant la décision de Mahmoud Abbas pour un report à une date indéterminée des premières élections en 15 ans en Palestine. Haniyeh l'a qualifié de peu convaincante. Auparavant, le mouvement avait décrit la décision comme un coup d'État pour Hamas. Le report des élections législatives palestiniennes va à l'encontre des intérêts nationaux de la Palestine. Le chef de l'autorité autonome palestinienne Mahmoud Abbas a reporté les élections, justifiant que le scrutin n'est toujours pas garanti à Rotsest, occupé par Israël. Les autorités palestiniennes ont blâmé le régime de Tel Aviv pour l'incertitude quant à savoir s'il autoriserait le déroulement des élections à Al-Quds occupée. Les États-Unis ont officiellement commencé à retirer leurs troupes restantes d'Afghanistan. Des hélicoptères américains ont été vus survolant Kaboul et la base aérienne voisine de Bagram, alors que Washington préparait le processus de retrait. Les responsables américains ont également confirmé le retrait des troupes, affirmant que le 1er mai n'était qu'une continuation. Les forces américaines devraient partir d'ici le 1er mai en vertu d'un accord signé entre les talibans et l'administration de l'ancien président Donald Trump. Les talibans accusent Washington de violer l'accord. Cependant, le président sortant, Joe Biden, a promis de mettre fin à ce qu'il a appelé la guerre pour toujours. Il a déclaré que toutes les troupes quitteraient l'Afghanistan d'ici septembre. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU se dit troublé par l'usage de la force par la police bahreïni contre un sit-in pacifique dans la principale prison du royaume. Le porte-parole de l'organisation a qualifié d'inutile et d'inapproprié la répression violente dans la célèbre prison de Jao. Elle a appelé le gouvernement bahreïni à ouvrir immédiatement une enquête approfondie et efficace sur l'incident. Les prisonniers ont commencé leur sit-in le 5 avril après la mort d'un détenu politique qui se serait vu refuser l'accès en temps opportun aux soins de santé essentiels. Les militants affirment que les forces de sécurité bahreïni ont fait recours à une répression dure contre les prisonniers et ne cessent de les battre et de les blesser. Le régime des Al-Khalifa fait face à des critiques sur la situation de ses prisons au milieu de la crise sanitaire du Covid. L'effroyable situation carcérale a également suscité des protestations parmi les familles des détenus. Enfin, de hauts responsables de l'Union européenne critiquent la Russie et menacent de prendre des contre-mesures après que Moscou ait imposé des sanctions d'entrée à 8 responsables de l'Union européenne. Les chefs du Conseil européen, de la Commission et du Parlement ont déclaré avoir condamné les sanctions dans les termes les plus fermes. Les chefs de l'Union européenne ont déclaré que les interdictions d'entrée étaient inacceptables et totalement sans fondement. Vendredi, Moscou a annoncé cette mesure en représailles aux interdictions de l'Union européenne à l'encontre de 4 hauts responsables russes. Les interdictions de voyage visent entre autres le chef du Parlement européen et le vice-président de la Commission européenne. Les tensions sont vives entre Moscou et Bruxelles à propos de l'empoisonnement présumé de la figure de l'opposition russe, Alexei Navalny, l'année dernière. Moscou rejette toute implication, affirmant que l'Occident, en intervenant dans les affaires intérieures de la Russie et en les politisant, cherche à faire pression sur la Russie pour assurer ses intérêts intéressés. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Iran Arabie, une paix est possible. Selon le magazine américain Foreign Policy, le changement de ton des Saoudiens envers l'Iran provient principalement de la réduction de la présence américaine dans la région de l'Asie de l'Ouest, mais aussi de leur méfiance à l'égard des États-Unis. Washington ayant tourné le dos au conflit dans la région, ses alliés ont été forcés à recourir à la diplomatie. L'une des principales raisons du changement de ton du prince héritier saoudien Mohammed ben Salman à l'égard de l'Iran est que Washington, son plus grand appui, réduit fortement sa présence et le nombre de ses troupes dans la région, affirme Foreign Policy. Pour Foreign Policy, les récentes déclarations de Mohammed ben Salman pourraient faire référence au pourparlers à huis clos entre l'Iran et les pays arabes en Irak. Les pourparlers qui, selon le magazine, pourraient affecter non seulement les relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite, mais aussi la sécurité de la région dans son ensemble. Foreign Policy de poursuivre que cela ne signifie pas que les États-Unis n'ont pas été impliqués dans ce processus, mais il y a des indications claires qui montrent que le retrait des troupes américaines de la région d'Asie occidentale a contraint les acteurs régionaux à poursuivre la diplomatie. Lors de sa campagne électorale de 2020, rappelle le magazine, le président américain Joe Biden s'est engagé à retirer la plupart des troupes américaines d'Afghanistan, à suspendre l'aide aux Saoudiens dans la guerre contre le Yémen et à revenir à un accord nucléaire avec l'Iran. Les 3 décisions qui s'inscrivent dans le cadre de la réduction de l'implication américaine dans la région. Foreign Policy explique que les puissances régionales recourent maintenant à la diplomatie pour une raison simple. En effet, il y a toujours eu des opportunités diplomatiques, mais jusqu'à présent, les alliés américains ont rejeté la diplomatie et se sont appuyés sur Washington pour résoudre leurs problèmes. Le retrait de Biden de la région de l'Asie occidentale signifie que les Saoudiens ont perdu la confiance envers les États-Unis. Dans une interview accordée mardi 27 avril à la télévision publique saoudienne, Mohammed ben Salman a déclaré « La politique étrangère saoudienne est basée sur ses intérêts et l'Arabie saoudite travaille pour renforcer l'alliance avec tous ses partenaires dans le monde ». L'Arabie saoudite est intéressée à établir de bonnes relations distinctives avec l'Iran, a souligné le prince héritier saoudien. Le changement de ton de l'Arabie saoudite a été salué par les pays de la région, entre autres le Qatar et le Pakistan. Ainsi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré jeudi soir que l'Iran accueillait favorablement le changement de position de l'Arabie saoudite. Interrogé sur les récents propos de Mohammed ben Salman concernant les relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite, Saïd Khatibzadeh a répondu que ces deux pays importants de la région et du monde islamique peuvent, en se basant sur une approche fondée sur le dialogue, surmonter les différends et entrer dans une nouvelle ère d'interaction et de coopération pour parvenir à la paix, à la stabilité et au développement régional. La République islamique d'Iran, en présentant des plans de dialogue et de coopération dans la région du Golfe Persique, y compris l'initiative de paix d'Ormuz, est un pionnier sur la voie de la coopération régionale et se félicite du changement d'approche de la part de l'Arabie saoudite.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce vendredi 30 avril 2021. Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salman a souhaité vouloir entretenir de bonnes relations avec la République islamique d'Iran. Dans une interview accordée mardi soir à la chaîne saoudienne Al Arabiya, Mohammed ben Salman a déclaré que son pays travaillait avec ses partenaires pour surmonter les différends avec la République islamique d'Iran. La réaction de la République islamique d'Iran n'a pas tardé à venir. Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Saïd Khatibzadeh, en effet, a souligné que l'Iran accueillait favorablement le dialogue pour résoudre les problèmes de la région, y compris, bien sûr, le dialogue avec l'Arabie saoudite. L'Iran critique toutefois le régime de Riyad pour sa politique agressive dans la région, notamment la guerre dévastatrice qu'il mène contre le peuple yéménite depuis mars 2015. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ce changement de ton, d'approche, hein, peut-être de l'Arabie saoudite à l'égard de la République islamique d'Iran et ses principales causes, mais aussi ses conséquences dans la région. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Dans un entretien avec la télévision Al Arabiya mardi soir, le prince héritier saoudien a déclaré que l'Iran était un pays voisin et que l'Arabie saoudite espérait avoir de bonnes relations avec lui. « Nous souhaitons avoir de bonnes relations avec l'Iran », c'est ce qu'a déclaré l'héritier du royaume saoudien, Mohammed ben Salman, dans une interview avec Al Arabiya. Il a quand même prétendu « Notre problème est le comportement négatif de l'Iran et nous travaillons avec les pays de la région et du monde pour trouver une solution à ce problème ». Le prince héritier saoudien a également affirmé que l'Arabie saoudite était d'accord avec les États-Unis sur 90% des questions et que les États-Unis étaient un partenaire stratégique de l'Arabie saoudite. Nous espérons que les Houthis se remettront à la table des négociations pour venir à bout de la guerre et que l'initiative saoudienne pour résoudre ce problème se poursuivra, a-t-il affirmé. Il y a 2 mois, à la fin de la 6e année de l'invasion militaire du Yémen, l'Arabie saoudite a proposé une initiative qui, selon Riyad, vise à rétablir la paix au Yémen. Cependant, le gouvernement de salut national yéménite, dont Ansar Allah fait partie, a qualifié le plan d'irréaliste, le plan qui ne va que dans le prolongement du maximalisme des agresseurs, selon lui. La défaite des desseins présumés de la coalition au Yémen d'une part et de l'autre le scandale des dirigeants saoudiens lors de la guerre du Yémen qui a provoqué la plus grande tragédie ont contraint Riyad à évoquer la question de la paix. Cependant, les Yéménites estiment que l'Arabie saoudite veut saisir ce qu'elle n'a pas été en mesure de réaliser à travers la guerre avec des plans imposés. Le prince saoudien traite de la tendance de Riyad à la reprise des relations avec l'Iran, alors que le ministre irakien des Affaires étrangères a parlé mardi soir dans une émission des efforts de Bagdad pour rapprocher l'Iran et les États arabes du Golfe Persique. Dans un discours prononcé mardi soir, Fouad Hossein a déclaré que l'Irak était franc dans le traitement des problèmes régionaux et qu'il jouait un rôle majeur dans l'embellie des relations des pays de la région.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Toulouse Monsieur le professeur Pierre d'Ortiguier, philosophe et politologue français, et depuis Damas, Maître Arnaud Develet, juriste international. Maître Develet, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour aux auditeurs particuliers.
On s'y attendait peut-être, Maître Develet, ce changement de ton, voire d'approche du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman à l'égard de l'Iran. Comment interpréter ce changement, cette volonté en effet de rupture notable avec ses précédents discours à l'égard de la République islamique d'Iran?
Bah écoutez, j'ai écouté avec attention l'interview dont vous mentionniez l'existence sur Al Arabiya mardi soir. Effectivement, on peut penser qu'il existe un changement de ton, mais je ne parlerai pas d'un mot comme rupture. Je pense qu'il s'agit avant tout d'une prise de réalité de la part du prince héritier, bien qu'il essaye de présenter les choses comme venant de sa propre initiative, comme s'il avait encore contrôle de l'agenda, et alors qu'en fait, la situation ne pourrait pas être plus opposée que cela, puisque les armes ont parlé sur le terrain, qu'il a mené une guerre catastrophique, qu'il a absolument refusé toute ouverture et toute approche basée sur la raison et sur les principes islamiques dont il se targue d'être l'une des incarnations, si je puis dire. Et que dans ce contexte-là, je soulignerais qu'il a, comme par hasard, repris les éléments de langage portant sur la capacité pour l'Iran à pouvoir se défendre et pouvoir défendre sa souveraineté, nommément eu égard au programme balistique de l'Iran. Et que dans ce contexte-là, on dirait plutôt quelqu'un qui essaie de faire une paire de coups, se présenter comme le monarque en devenir magnanime, qui ferait des ouvertures diplomatiques, qui prendrait l'initiative, alors que, encore une fois, je le répète, c'est le peuple yéménite qui a imposé le changement de ton dont il s'agit. Mais en même temps, c'est une façon pour lui d'essayer de, derrière des ouvertures qui porteraient sur un apaisement avec l'Iran, il essaye de faire pression, en fait, sur les partis de l'accord sur le nucléaire afin que l'accord lui-même soit élargi pour inclure l'influence iranienne dans la région, je cite, et le programme balistique iranien. Donc de toute évidence, il faut prendre cette interview avec un grain de sel. N'oublions pas que Ben Salman est avant tout l'homme des Israéliens, que si Trump avait été réélu, je ne pense pas que nous serions en présence d'un sujet tel que celui d'aujourd'hui, et qu'il faut absolument raison garder quant à ce qui peut sortir de sa bouche.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous. On va tout de suite se rendre à Toulouse pour rejoindre M. le professeur Pierre d'Ortiguier. M. d'Ortiguier, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, M. Codamandé. Bonjour à tous nos auditeurs et bonjour à Maître Develet, que j'ai écouté avec grand plaisir.
Monsieur le professeur, selon de nombreux analystes aujourd'hui, le prince héritier saoudien n'a pas en effet les moyens d'adopter une stratégie de confrontation avec l'Iran. Donc, il est en quelque sorte contraint de s'adapter à l'échec de sa politique étrangère et de voir ses ambitions régionales, notamment à la baisse. Donc, le récent discours de MBS est plutôt un constat d'échec de sa politique étrangère.
Oui, en effet, nous sommes tout à fait, enfin chacun ne peut que convenir de ce que vous dites, et il est en effet MBS, le prince héritier, donc, est en retrait, bien sûr, par rapport à ses ambitions, par rapport à sa furie anti-iranienne. Ceci est un point. Je dirais, en écoutant Maître Velay aussi, que il me semble, ma première impression a été de marquer, disons, une sorte de remarquer une certaine distance entre lui et la politique de M. Biden. Il a dit, vous savez, qu'il était d'accord majoritairement avec ce que dit M. Biden, donc cela signifie qu'il y a, bien sûr, un conflit entre lui et son groupe et la politique américaine qui est celle du patron de l'Arabie Saoudite. Ne l'oublions pas, depuis les accords du Quincy en 1945, ils ont été des accords renouvelés, bien sûr, mais enfin, les États-Unis sont les patrons du pays, économiquement, etc., et, disons, les protecteurs de la dynastie saoudienne. C'est un fait, disons, qui ne peut pas être contesté. Et je crois qu'il y a une différence, il y a une orientation, disons, pragmatique, réaliste aujourd'hui, des Américains dans la région. Ils veulent, bien sûr, ils ont des arrière-pensées, bien sûr, ils nous semblent vouloir, disons, traiter, séparer, bien sûr, la politique du monde arabe de la politique iranienne, non pas les opposer, mais disons essayer de marquer, disons, de favoriser une certaine distance. Je ne crois pas qu'ils réussiront, mais disons c'est tenté. Et bien sûr, cela signifie aussi que les Américains ont tiré des conclusions de cette guerre du Yémen, auquel vous faites allusion, M. Codabandé, ainsi que Maître Velay. Je crois que la politique, disons, cela signifie que la politique américaine est plus réaliste. Et je crois que l'État lui-même, si on peut dire l'État profond saoudien, le sait, la société le sait. On parle, vous savez, disons, il est question de rapports secrets, enfin de rapports discrets, disons plutôt, entre l'Iran et l'Arabie saoudite maintenant, de contact. Ce n'est pas impossible, bien sûr. Il y a toujours une diplomatie en parallèle et secrète. Et je crois que il y a un effet des défaites de leur client yéménite sur la politique saoudienne. C'est vrai, l'État, même la société, s'est sentie touchée, disons, par la résistance armée, les effets de la résistance armée sur son propre sol. Mais je crois que c'est surtout, cette nouvelle orientation de la politique américaine, très différente de celle de Trump, qui gêne certainement les milieux les plus fanatiques, disons, les plus aveugles de la société saoudienne. Et je crois que cette société saoudienne a aussi contre elle une grande partie des milieux économiques, etc., qui veulent, disons, envisager avec beaucoup plus de réalisme, évidemment, la politique de leur pays. Et je crois que de ce point de vue, il y a un certain aveu d'échec, finalement, de ces premières ambitions que nous exprime ici, disons, je dirais, les réticences de BMS, disons, de Ben Salman, d'MBS, contre ce que je dirais même être la politique américaine. Je crois que il n'y a que cela qui touche au vif son propre milieu, voyez-vous. Et ils savent que sans les Américains, ils ne sont rien. Et donc, il veut, disons, se maintenir et, bien sûr, et aussi tenir compte, que ça, chacun en tient compte, mais tenir compte également des oppositions à l'intérieur du pays, de milieux industriels, qui ne peuvent pas supporter non plus, quand même, cette guerre épouvantable du Yémen, qui est finalement une destruction programmée même du monde arabe, parce que c'est vraiment ce qui se passe là, est très peu connu en France. Je dirais que ce n'est pas très... la presse n'y donne pas, n'y consacre pas, disons, un effort d'instruction, mais, disons, c'est la moitié de la population du Yémenite maintenant qui est dans la misère à cause de cette guerre, et c'est l'Arabie saoudite qui emporte quand même l'entière responsabilité.
Merci, monsieur le professeur, pour ces éclairages. Restez avec nous. Maître de Velay, alors revenons à cet effet Biden, vous avez évoqué tout à l'heure, monsieur le professeur aussi. Donc là, le prince héritier saoudien a déclaré qu'il était d'accord à 90% avec la politique du président Biden. Alors, depuis 6 ans, l'Arabie saoudite a été le prince héritier saoudien qui a ordonné la guerre contre le Yémen, a été le trublion de la région. Aujourd'hui, il semble vouloir endosser le costume de l'élément stabilisateur. Est-ce que pour lui, ce changement de ton est le meilleur moyen de s'adapter à la nouvelle politique américaine dans la région?
Ben, clairement, il n'a pas le choix. C'est la seule solution pour lui s'il veut, si je puis dire, commencer un petit peu à agir comme quelqu'un de responsable, c'est de prendre acte de la réalité telle qu'elle est. Donc on a effectivement des éléments de sa psychologie qui apparaissent au travers des éléments de langage qu'il utilise, de la mise en scène de sa communication, mais il ne faut pas s'y tromper, la réalité est tout autre. On a en fait affaire à quelqu'un qui semble vivre dans une tour d'ivoire, et dû au fait qu'il a fait de ménage, entre guillemets, autour de lui, en emprisonnant toutes les personnes qui étaient susceptibles de contredire sa perception de la réalité, qu'elle soit économique, régionale, au plan géostratégique, ou que sais-je encore. Je veux dire, c'est quelqu'un qui, visiblement, n'a pas le niveau, à l'opposé de tous les prédécesseurs qui étaient des princes héritiers ou qui soient devenus rois par la suite. Il est l'un des seuls qui n'a jamais ou presque quitté le royaume. Donc il a une vision complètement, si je puis dire, insulaire de la réalité telle qu'elle devrait être mise en avant. Et surtout, il a une propension à faire fi de la réalité. Ça, c'est dangereux. Quelqu'un qui fait fi de la réalité, qui s'engouffre, finit par engouffrer tout le peuple, tout le pays derrière lui. Il avait mis en avant, effectivement, au départ, c'est ce qui avait un petit peu plu aux Occidentaux, cette idée de diversification de l'économie saoudienne. Mais dans les faits, il s'est tout de suite tiré une balle dans le pied en organisant cette espèce de racket. Tout le monde s'en rappellera de l'épisode du Ritz-Carlton où il avait fait les poches de tous les princes du royaume. Sous couvert de corruption, bien sûr, hein, des combats contre la corruption. Il avait ensuite écarté l'ancien prince héritier avant de devenir dans la foulée ministre de la Défense et donc de prendre directement la responsabilité de l'agression contre le Yémen. Il avait ensuite laissé entendre que par ses actions en arrêtant des membres éminents de la famille royale, et je pense là de son propre oncle, qui est quand même le frère du roi actuel, hein, le prince Ahmed, qui avait eu, faut le dire, le courage de dénoncer, en tout cas de prendre ses distances avec la situation au Yémen, c'était en octobre 2018, à Londres. Des garanties qui semblaient à lui avoir été étendues quant à sa sécurité s'il revenait au royaume. Il revient au royaume et en fait, quelques temps plus tard, il est lui-même passé sous résidence surveillée. Donc en fait, on est en présence de quelqu'un qui semble agir, si vous voulez, par le biais de représentations qui auraient pu lui être faites de la part de Trump à l'époque et des Israéliens par la suite, que quoi qu'il fasse, il est protégé. Et qu'il est leur homme. Parce qu'en fait, à son âge, à 35 ans, le calcul, c'est qu'ils vont pouvoir l'utiliser pendant peut-être, je ne sais pas moi, 25, 30 ans. Bien sûr, contre les intérêts du peuple saoudien et du peuple yéménite. L'idée, c'est d'utiliser quelqu'un qui n'a aucune expérience des affaires d'État, qui ne peut pas contrôler ses émotions, qui agit par impulsion, et surtout qui ne soutient aucune contradiction. Donc à partir de là, ça crée une incertitude quant à beaucoup de paramètres, Mais encore une fois, je dirais, il faut, dans ce contexte-là, placer ces déclarations de mardi soir dans un contexte ponctuel et non pas stratégique.
Merci infiniment, merci encore. Monsieur Dortiguier, alors dans quelle mesure ce changement de ton du prince héritier saoudien est lié à la situation actuelle au Yémen où Ansar Allah et ses alliés sont en passe de reprendre totalement la ville stratégique de Ma'arib?
Eh bien justement, c'était, vous le dites, monsieur Boutamandé, il s'agit là d'un effet de ces victoires sur le prince saoudien, sur le prince héritier. Vous savez, c'est une réalité qui ne peut pas nier. Et même, disons, c'est toute la société saoudienne qui tire des conclusions, justement, de l'inanité de cette guerre entreprise au Yémen. Guerre qu'il faut le rappeler à nos auditeurs, jeunes auditeurs surtout, qui est ancienne, bien sûr. Je me souviens de cette guerre à l'époque de Nasser, déjà, qui opposait le nord et le sud Yémen. Donc là, il s'agit véritablement d'un échec. Et le tempérament bien décrit par Maître Velay du prince héritier a transparu encore dans son caractère, que je dirais, tyrannique. C'est-à-dire que dans le tyrannique, non pas dans le sens qui exerce la violence, mais dans l'aveuglement à la réalité. C'est un homme qui est imbu de lui-même, qui a été choisi, justement, je reprends ce que dit Maître Velay, mais pour l'affirmer et insister, il a été choisi, cet homme, pour sa fragilité. Et cette fragilité, bien sûr, cette sensibilité a deux visages, a deux faces. C'est-à-dire, d'un côté, cela peut lui donner certains types de cruauté qu'on connaît, je n'insisterai pas par pudeur, mais vous avez aussi, disons, une certaine volonté de survivre, c'est-à-dire de préserver sa propre existence, et par là même de s'adapter à ce que les maîtres du pays, j'en parle des Américains, et on ne peut pas, ce n'est pas une caricature, c'est un fait, hein, ordonne, il veut s'y plier, et quand il dit qu'il n'est pas d'accord avec M. Biden à 10%, je crois, enfin, en fait, en disant qu'il a reçu une gifle venant, comme vous dites après votre question, vous avez une gifle venant de la situation militaire, c'est une défaite militaire, et en même temps, je crois qu'il sent sa propre fragilité vis-à-vis de toute la société saoudienne, société politique, société, économique. Je dois dire que c'est un bienfait, d'ailleurs, pour cette société, que le roi soit encore en place, parce que, imaginons que ce jeune homme, soit au pouvoir, je crois que nous aurions, bien sûr, encore à déplorer, disons, des pertes colossales au Yémen. Ce serait une politique vraiment épouvantable. Je crois que ce retournement, on peut parler de retournement de l'Arabie Saoudite, ce pas en arrière qu'elle fait par rapport à son agressivité ordinaire, est un pas qui, à mon avis, s'accompagnera d'autres actions dans le même sens. Je ne crois pas, disons, que l'Arabie Saoudite reviendra à son agressivité, connue. Ce n'est pas possible, et il faut reconnaître aussi que c'est un État, on n'insistera jamais assez, qui n'a pas d'autonomie. C'est un État qui est un client, qui est plus qu'un client, qui est une création, même la dynastie elle-même, quelle que soit la valeur de ces gens, est une dynastie qui est obligée, de se soumettre à ses protecteurs, à ses patrons. Et ces patrons, c'est une déclaration, je répète la déclaration de 1945, encore c'était en pleine guerre, c'était pendant le bombardement, je crois, de Dresde, en février 1945, ils sont obligés de suivre, évidemment, ceux qui les ont mis au pouvoir. C'est un destin tragique que celui de l'Arabie Saoudite, et pour le monde arabe en général. C'est quand même le pays aussi, quand même dépositaire des lieux saints, et je dois dire que là-dessus, c'est comme si on invitait le diable dans une église, vous comprenez? C'est quand même effrayant de voir tout ce que ce pays a pu commettre, disons, d'erreurs pour l'avenir même du monde arabe et l'avenir du monde musulman.
Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français depuis Toulouse, maître de Velay, juriste international depuis Damas, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
à tous, bienvenue dans cette émission Focus. L'Iran s'est félicité du changement de ton de l'Arabie Saoudite après des déclarations du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman disant souhaiter de bonnes relations avec Téhéran. L'Iran a été un pionnier sur la voie de la coopération régionale et se félicite du changement de ton de l'Arabie Saoudite, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Saïd Khatibzadeh dans un communiqué. En adoptant des points de vue constructifs et basés sur le dialogue, ces deux pays importants de la région et du monde islamique peuvent surmonter les différends et lancer un nouveau chapitre de coopération pour parvenir à la paix, à la stabilité, au développement régional, a-t-il souligné. Les sanctions américaines empêchent l'égalité numérique nécessaire pour lutter contre la crise du Covid-19. L'ambassadeur d'Iran à l'ONU a averti que les sanctions illégales des États-Unis vont directement à l'encontre de l'égalité numérique dont les pays en développement ont cruellement besoin aujourd'hui pour lutter contre la crise du Covid-19. Majid Tartelavanchi a fait ses remarques lors d'une réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies tenue pour aborder la question de la coopération numérique mondiale. Il a noté comment les technologies de l'information et des communications avaient contribué sans précédent à stabiliser le public à la pandémie et jouer également un rôle important dans la prévention, le diagnostic et le traitement du phénomène indésirable. Cependant, les sanctions avaient purement et simplement creusé la fracture numérique entre les pays développés et les pays en développement à un moment où la science pouvait avoir un effet décisif sur la crise sanitaire, a déclaré l'ambassadeur. Les interdictions, a-t-il noté, ont été spécialement conçues pour cibler le grand public ainsi que son droit à la vie et à une existence saine. Les États-Unis ont particulièrement levé les sanctions après avoir conclu un accord numérique historique avec l'Iran et des pays du monde en 2015. 3 ans plus tard, cependant, ils ont abandonné illégalement et unilatéralement l'accord et ont rendu les interdictions inhumaines. Le responsable iranien a averti que si la différence de niveau de progrès numérique que les mesures économiques coercitives avaient provoqué n'était pas corrigée, elle menaçait la vie et le bien-être des gens du monde entier. Le secrétaire général du Hezbollah libanais a salué le courage des habitants de Quds et le soutien de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Le secrétaire général du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, a salué les habitants de la ville sainte d'Al-Quds qui font face aux forces d'occupation israéliennes depuis le début du mois de Ramadan. Dans son allocution télévisée hebdomadaire spéciale mois du Ramadan, au cours de laquelle il aborde des thèmes exclusivement religieux, c'est Hassan Nasrallah s'est toutefois arrêté sur les récents événements en Palestine occupée, ponctués par des affrontements entre les habitants de la ville de Nablus d'une part et les colons et les policiers et militaires israéliens de l'autre. Ces derniers entravent leur accès à l'esplanade de mosquée, à la mosquée d'Al-Aqsa, pour y effectuer leurs prières pendant ce mois béni, en érigeant des barrières de fer sur les routes et les portes menant à l'esplanade. Les affrontements se sont surtout concentrés sur Bab al-Amoud. Le cancer de certains soldats israéliens serait lié aux dômes de fer. En plus du fait que son efficacité est remise en cause, la batterie anti-roquette israélienne dont de fer semble causer le cancer. Un certain nombre de soldats et de soldates israéliens ont été atteints par le cancer pendant leur service militaire près des batteries du Dôme de Fer, a indiqué le journal israélien Yediot Aharonot. Ils ont été diagnostiqués d'un cancer vers la fin de leur service militaire ou après plusieurs mois de leur libération du service. Selon le journal, de nouvelles recherches médicales ont révélé que l'incidence la plus élevée de cancer dans l'armée israélienne se trouve d'ailleurs parmi ceux qui travaillent dans le domaine de la défense aérienne. Citant le porte-parole de l'armée d'occupation israélienne, le Yediot Aharonot rapporte, ces données ne sont pas anormales. L'incidence du cancer parmi les soldats de l'armée qui n'est pas étrange. Le journal a indiqué qu'une enquête complète sur cette affaire sera publiée le vendredi, donc de supplément hebdomadaire publié tous les vendredis sous le nom de 7 jours. Le Dôme de Fer, connu également en anglais sous le nom Iron Dome, est un système de défense aérienne mobile qui a été conçu pour intercepter les obus et les roquettes. Son efficacité est de plus en plus contestée par des experts israéliens et américains. La France a été épinglée par le Conseil de l'Europe sur le harcèlement des journalistes. Le Conseil de l'Europe a émis des chiffres inquiétants quant au nombre de cas d'atteinte à la liberté de la presse sur le vieux continent et notamment en France où les journalistes sont parmi les plus harcelés selon le nouveau rapport de l'institution. Tout en exhortant les gouvernements européens à enrayer cette dégradation de la liberté de la presse, la secrétaire générale du Conseil de l'Europe a attiré l'attention sur une augmentation des cas de violence et d'intimidation contre des journalistes ces dernières années. Selon les chiffres du rapport, en dépit des alertes du Conseil de l'Europe lancées dans le contexte de la pandémie au gouvernement européen en 2020, 201 alertes relatives à la liberté des médias ont été publiées sur la plateforme. Il s'agit là du chiffre le plus important jamais enregistré en une seule année, qui dépasse de près de 40% celui relevé en 2019, a précisé le rapport dont le texte intégral est disponible en suivant ce lien. La Chine ne doit pas être la cible de la réforme de l'OMC. La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, a souligné à propos de la réforme de l'OMC que la Chine ne devait pas être la cible de cette réforme. Selon un article de Deutsche Welle en date du 26 avril lors d'une réunion de la Commission européenne, ce jour-là, Madame Ivilia a souligné que si la réforme pouvait éviter de faire de la Chine la cible de trop grandes puissances, alors Pékin pourrait être plus désireux encore de coopérer et de participer aux réformes du commerce international. Deutsche Welle a déclaré que le contexte de la déclaration de Madame Okonjo-Iweala est inquiète au sujet des grandes entreprises publiques chinoises. Les États-Unis, l'Union européenne et le Japon poussent à une action pour essayer de freiner les subventions industrielles dont ils estiment qu'elles faussent l'économie mondiale. Le 31 mars, le groupe du G7 a tenu sa première réunion ministérielle sur les routes commerciales En tant que pays assurant la présidence tournante, le Royaume-Uni a pris l'initiative d'attaquer la Chine, affirmant qu'il est temps désormais d'adopter une attitude ferme à l'égard de la Chine et de ses actions dans le système commercial mondial. Dans la déclaration conjointe publiée après la réunion, le G7 a de nouveau souligné l'impact des subventions industrielles sur l'économie, qualifiée d'approche de distorsion du marché. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré lors d'une conférence de presse régulière que la Chine n'accepte jamais les accusations sans fondement des responsables britanniques concernés. Elle a souligné que depuis l'entrée de la Chine à l'OMC il y a 20 ans, celle-ci a toujours tenu ses promesses. C'est pleinement conformé aux règles de l'OMC et défendu fermement le système commercial multilatéral avec l'OMC en son sein. Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.